Les dossiers Construction 21, regard croisé sur le bâtiment et la ville durable.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une table ronde. Bienvenue à vous. Alors cette table ronde a pour but de parler des rues de nos métropoles. Comment transformer les rues de nos métropoles? Comment expérimenter? Comment pérenniser puis généraliser? Voilà, c'est des questions que l'on va se poser et dont on va discuter tout au long de cette table ronde. On va parler également de la rouille commune, qui est un groupe d'experts reconnus à l'échelle nationale et internationale en matière de composition urbaine. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Trois intervenants sont là aujourd'hui avec moi pour justement voir comment l'action publique peut porter de telles initiatives, que ce soit au niveau juridique, au niveau du financement, qui est important, très important au niveau de l'engagement citoyen, comment embarquer les citoyens. On va parler également des controverses, de ce que l'on peut apprendre. Voilà, c'est un parti pris, transformer la rue ordinaire de nos métropoles pour rendre la ville du 21e siècle durable et désirable et répondre ainsi à l'urgence sociale et climatique. On en parle énormément dans l'actualité en ce moment. Comment du coup transformer, comment imaginer les rues de demain, la ville de demain. Alors on va en parler plus en détail. D'ailleurs, d'abord je vais présenter nos intervenants. Mireille Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes manager senior chez Algoé. Anne Faure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Rue de l'Avenir. Et Étienne Bourdet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des projets innovants chez Léonard. Alors, chacun d'entre vous va présenter justement ces entreprises, ces associations. On va déjà commencer par expliquer, à présenter la rue commune. Qu'est-ce que c'est, Étienne? Je vais vous demander en premier lieu de nous expliquer ce qu'est la rue commune.
Oui, bien sûr. La rue commune, c'est une initiative qui a été lancée donc en 2021 par des acteurs de la sphère privée. Donc il y a Léonard, vous en parliez à l'instant, qui est la plateforme innovation du groupe Vinci, et également l'agence Richet Associés, qui est une agence d'urbanisme, d'architecture et de paysage, et Franck Boutet Consultant sur le volet ingénierie environnementale. Alors en 2021, on sortait des premiers confinements et on a vu la ville se vider, et donc on a constaté le plein potentiel de l'espace public. Et c'est là qu'on a adressé notre copie à l'ADEME, un manifeste qu'on a rédigé à trois mains pour définir ce que pouvaient être les rues ordinaires du XXIe siècle. Et donc nous travaillons sur ça depuis déjà un an, l'élaboration d'un guide méthodologique.
En fait, vous essayez de répondre à cette envie qu'on a ressentie dans toute la France, surtout nous, les citadins, de transformer vraiment nos métropoles. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites brièvement, du coup, chez Léonard, responsable de projet innovant, c'est quoi exactement?
C'est simple, c'est identifier à travers la prospective quels sont les sujets émergents, les sujets de demain, et les transposer de manière assez opérationnelle pour que des acteurs, soit du groupe Vinci, soit des partenaires de la sphère privée, puissent s'en emparer et engager de tels projets qui, selon nous, transformeront les villes ou les territoires.
Alors, avec ce projet Rue Commune, en gros, vous avez un an pour mettre à disposition des collectivités un guide méthodologique de diagnostic et de mise en œuvre pour accélérer donc l'adaptation des rues métropolitaines ordinaires, vous l'avez dit. Livraison fin 2022, 21 octobre, c'est ça ?
C'est ça, 21 octobre, on a donc un temps fort, c'est la présentation donc de ce travail qu'on vient corréler en fait au résultat d'une consultation citoyenne qu'on a donc menée en France, qui a très bien marché parce qu'il y a eu plus de 200 000 votes, 25 000 participants, et ça c'est le postulat de départ de ce projet, c'est-à-dire partir du terrain, des usagers. On est conscient que la rue, elle se pratique en fait à une échelle ultra locale, et c'est pour ça que selon nous, définir aujourd'hui la rue commune, c'est avant toute chose dire que ça sera le reflet en fait de politique publique ultra locale. Et donc c'est le message qu'on veut adresser aux personnes qui sont en responsabilité actuellement.
Je pense que c'est très important en effet de partir du terrain. À quoi ressemblerait selon vous une rue commune ?
Alors aujourd'hui c'est difficile de le dire, parce que justement ce sera le résultat de concertation Et de projets menés, comme je disais, à une échelle locale.
En fonction des personnes, des types de personnes.
Voilà,
aussi,
exactement. Hein. Donc on n'est pas là pour donner une réponse ou du moins un modèle à appliquer un peu partout. C'est pas du tout ça l'exercice, bien au contraire.
D'accord.
On est plutôt là pour définir une méthodologie de travail. Donc c'est ce qu'on a essayé d'éprouver à travers des ateliers avec des experts, et notamment ceux qui prendront la parole juste après moi, qui ont participé à ces ateliers. Donc c'est intéressant d'avoir leur témoignage également. Mm-hmm. Mais c'est surtout en fait questionner un triptyque qu'on a parfois en fait dans des guides de manière assez isolée. Et donc là c'est la complexité de notre sujet. On parle de mobilité urbaine, ça c'est un sujet extrêmement fort.
On voit en parle beaucoup en ce moment
aussi. La voiture... pose des problèmes, donc il y a d'autres solutions, mais c'est pas simple à mettre en œuvre. On parle également de biodiversité et de climat, grand sujet d'actualité aussi.
Après l'été qu'on a passé, oui.
Ben voilà, voilà les gros coups de chaud. Et on parle de nouveaux usages.
Ouais.
Et c'est pour ça que les usagers, finalement, ont une carte à jouer et un rôle prépondérant. Donc, nous, en fait, notre slogan, c'est transformer le sol pour libérer les usages de la ville.
D'accord. Un slogan fort qui parle de lui-même. Mireille, alors pouvez-vous déjà nous présenter Algoé et ce que vous faites chez Algoé ?
Alors Algoé, c'est une société de conseil en management de projet qui compte environ 200 salariés, PME, et qui intervient dans le cadre des projets urbains pour améliorer le cadre de vie des habitants notamment. Et du coup, nous sommes associés à la réflexion sur la rue commune et avons participé aux ateliers, à la structuration du guide sur la rue commune.
Et du coup, comment ça s'est fait cette participation ?
C'est une association, une mobilisation de la part de Léonard d'Algoé, puisqu'on est un peu reconnu expert sur ces sujets-là, et on participe aux tous les ateliers, à toutes les réflexions aujourd'hui sur la démarche.
Donc c'est Léonard qui sont venus vous chercher au final. D'accord. Alors aujourd'hui, les villes, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont prêtes à mettre en œuvre ces principes, ce genre de projet ?
Ce qui a déjà été évoqué d'ailleurs à l'heure du changement climatique et de la crise sanitaire, les métropoles se doivent en fait d'accélérer leur transition vers une ville résiliente, apaisée, où se tissent des relations. Et les villes sont face à une demande aussi citoyenne et souvent même à l'engagement aujourd'hui des élus en faveur d'une ville plus respirable, moins bruyante, plus vivable, notamment lors des épisodes, comme vous l'avez déjà dit, de forte chaleur. Elles sont donc prêtes à trouver des solutions, notamment par le biais de la requalification des espaces publics. Et la rue commune, on peut dire que c'est une des solutions qu'elles pourront mettre en œuvre pour améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants. En proposant une mise à niveau du sol, du coup, comme ça a été déjà présenté, la disparition des trottoirs, mais aussi l'absence de marquage ou des différents modes de transport, les villes disposent d'une solution qui présente de nombreux avantages. Et parmi ces avantages, on peut en citer deux, c'est la durabilité des aménagements dans le temps et puis les bénéfices importants pour les riverains et les usagers qui apprécieront le résultat et rendront là aussi la rue plus attractive.
Et alors, comment faire évoluer leur gouvernance pour créer des projets plus proches des attentes des citoyens dont on parlait tout à l'heure ?
Alors, la participation effectivement des usagers à l'élaboration des projets urbains, de manière générale, c'est une condition de réussite au projet. Et l'implication des citoyens dans la définition et la mise en œuvre des décisions qui les concernent contribue aussi à l'appropriation des projets et encore plus à l'acceptation. Et la plupart des villes concertent déjà beaucoup dans le cadre des projets urbains. Il n'y a pas besoin de faire évoluer structurellement la gouvernance pour concerter avec les habitants, les actifs, les usagers sur la transformation de la rue. Peut-être que des évolutions peuvent être apportées pendant la phase de conception pour garantir une concertation réussie, en formalisant peut-être certains collectifs davantage. Et la gouvernance doit peut-être également évoluer pour pérenniser des usages. En effet, la rue commune, c'est pas seulement la transformation physique des lieux, c'est aussi l'évolution des usages.
Bien sûr.
Pour plus de convivialité, de vivre ensemble. À titre d'exemple, l'organisation de fêtes, la piétonnisation de la rue sur certains créneaux, des temps dédiés, des espaces pour les enfants. Et pour que ces usages perdurent, il faudra probablement que les habitants, les commerçants et d'autres acteurs impliqués garantissent dans la durée l'animation de la rue.
En fait, le but, c'est vraiment de modifier les lieux. Ça modifiera l'usage et donc ça créera de nouvelles habitudes, en fait, des citoyens.
Tout à fait, ouais. Et on peut également aussi se dire que la ville pourrait créer un poste de manager de rue, comme à l'instar, en fait, des managers de centre-ville pour les commerces, afin d'accompagner les initiatives et les aider, en fait, à perdurer dans le temps.
C'est très intéressant, ça, les éduquer, en fait, les embarquer aussi dans le projet. Ouais. Alors, Anne, vous, donc, vous êtes présidente de l'association Rue de l'Avenir. Pouvez-vous nous présenter brièvement Rue de l'Avenir ?
Alors, Rue de l'Avenir, c'est une association ancienne qui a maintenant plus de 30 ans, qui a été créée à une époque où les problèmes de sécurité des déplacements en ville étaient cruciaux, parce qu'il y avait un nombre de morts absolument terrifiant, et on est parti là-dessus, notamment par rapport aux accidents d'enfants. Oui. Ça fait partie de l'ADN de notre association. Le problème de l'enfant dans la ville a été posé très fortement il y a 30 ans, et il l'est toujours maintenant, parce que l'enfant ne trouve toujours pas sa place dans la ville. L'enfant et d'ailleurs les personnes à mobilité réduite d'une façon plus générale. Alors, cette association a été basée sur le slogan, c'était pour une ville plus sûre et plus agréable à vivre. Donc il y avait cette idée d'avoir une ville conviviale et qui s'est transformée petit à petit sur de la sécurité. On est passé du bien-être en ville et nous, notre sujet, c'est la ville apaisée et notre outil, notre vecteur d'entrée dans le sujet, c'est la qualité de l'espace public. Ce qu'on pense, c'est que si l'espace public est de qualité, ça donnera envie aux gens de marcher, de prendre son vélo et un peu moins sa voiture. Donc on travaille beaucoup sur ce thème-là.
Alors là, vous évoquez la mobilité. C'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup dans quasiment toutes les grandes villes de France. Hein, ça crée des débats, les gens ne sont pas d'accord. Comment rendre acceptable par le plus grand nombre des projets qui limitent la place de la voiture en ville, sans les faire hurler?
Voilà, alors le problème est de limiter la place de la voiture, c'est pas de l'interdire, hein. Il faut bien être clair là-dessus. Le problème qui se pose, c'est que on a d'une façon un peu systématique l'impression que beaucoup de gens ne se posent même plus la question de se déplacer autrement. Donc le problème, c'est de limiter cette espèce de recours à la voiture systématique et de montrer aux gens qu'il y a d'autres façons de se déplacer, surtout pour les trajets de moyenne et petite distance.
Bien sûr.
Et donc là, il faut essayer. Ça, c'est un des objectifs de la concertation, il faut essayer d'expliquer aux gens le bénéfice qu'ils vont tirer de se déplacer autrement. Alors c'est bouger pour la santé, c'est quand même pas mal passé depuis quelques années. Les gens ont compris que ils étaient en surpoids, qu'ils étaient peut-être qu'ils avaient un peu de diabète ou des maladies cardiovasculaires. Enfin bon, c'est un discours qui passe de mieux en mieux parce que le discours sur le sport et sur
Une éducation en fait.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait que beaucoup de gens se plaignent de la pollution et du bruit en ville, notamment les gens qui ont des enfants. Les endroits les plus pollués dans les villes, c'est les sorties d'école. C'est quand même invraisemblable.
Ah oui,
parce que tout le monde arrive avec sa voiture, laisse le moteur tourner. Ouais. Et
toutes les microparticules qui
donc,
s'échappent.
Ouais. Il est possible d'expliquer aux gens qu'ils se font du mal en utilisant leur voiture là où on pourrait faire autrement. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise pas mal. Mais je pense que d'une façon générale, comme ça vient d'être dit, les villes ont compris qu'il fallait changer un peu de façon de gérer. Bon, pas toutes, hein. Dans les grandes villes, c'est évident. Dans les petites villes, ça l'est moins. Surtout que dans les petites villes, on peut se garer facilement partout.
C'est vrai, les rues sont plus grandes, il y a moins de circulation. Est-ce que vous avez justement des exemples de villes qui ont réussi? On parle de Nantes, exemple.
Par exemple, Nantes a créé une zone à trafic limité.
C'est-à-dire
que les zones à trafic limité, c'est ce qu'on voit dans les villes d'Italie. En Italie, les zones centrales sont réservées. Enfin, la circulation dans les zones centrales est réservée aux personnes qui y habitent. Et les autres personnes n'y ont pas droit, sauf, bien évidemment, plein de dérogations pour les urgences, pour par exemple, les médecins, les infirmières, entreprises de bâtiments, etc. Bon, et ça fonctionne relativement bien, ça énerve les touristes, parce qu'ils sont pas habitués.
Et ça réduit drastiquement le trafic.
De moitié.
De moitié, d'accord.
De moitié, et ça crée des centres-villes très apaisés, très agréables. Alors, il y a, dans certains cas, c'est très étendu, dans d'autres moins. À Milan, par exemple, il y a aussi un hypercentre qui a un système de péage comme le péage de Londres. Bon, mais il y a 36 façons de le faire, mais l'idée, c'est de ne pas autoriser tout le monde à rentrer dans les endroits très circulés. Ça, c'est un moyen, mais il y a aussi en France, on a les zones de rencontre, qui sont des secteurs où la vitesse est limitée à 20 km/h pour les voitures et où le piéton est prioritaire. Alors, ça, c'est un système qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, mais les gens ne sont pas au courant. Il y a besoin de communiquer sur les bienfaits de ce système. C'est une réglementation. Notre association a beaucoup contribué à ce qu'elle soit mise en place, mais comme il n'y a pas de communication autour, c'est un peu difficile de faire comprendre aux gens tout le bénéfice qu'ils peuvent en ressortir.
C'est vrai que vous avez mis le doigt dessus, la communication, l'éducation est très importante, primordiale même. Étienne, pourquoi vous êtes concentré sur les rues ordinaires et c'est quoi une rue ordinaire?
On s'est concentré en fait sur les rues ordinaires parce que c'est là où il y a le plus de choses à faire. Finalement, on se rend compte que les rues extraordinaires, c'est-à-dire les avenues, les grands boulevards, sont plutôt bien conçu, de longue date.
Et puis c'est compliqué de
transformer, parce qu'en fait, c'est finalement là où il y a les transports en commun, et donc, mine de rien, on a besoin de se déplacer. Donc, cette fonction-là, on peut difficilement la changer. Les Champs-Élysées au XVIIe siècle, Haussmann au XIXe, je veux dire, tout ça a été plutôt bien pensé, et ça sert à rien de vouloir métamorphoser tout ça. En revanche, il y a des délaissés en ville, donc ce sont ces rues ordinaires. Chacun de nous habite dans une rue où il y a des voitures qui sont garées juste en bas. Alors c'est super pratique, et peu de gens veulent se séparer de cette fonction-là, mais ça veut dire aussi que ces rues sont quasiment monofonctionnelles pour garer des voitures ou leur stationnement ou leur déplacement. Et donc la place du piéton est finalement minime dans ces espaces. C'est ce que nous on qualifie des rues ordinaires, parce que finalement elles n'ont pas beaucoup de caractère. Voilà.
D'accord. Et donc c'est des rues où il y a très peu de passages, des voitures garées.
Alors il y a du passage, et on est tous agglutinés sur les micro-trottoirs. Et c'est un des sujets qu'on traite. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des espaces qu'aujourd'hui, dans la conception de la ville, finalement on y porte très peu d'intérêt, alors que le potentiel est juste énorme. Si on parle de Paris, juste Paris, on a identifié le potentiel de rues communes à développer dans Paris, 4000 km.
D'accord.
4000 km. Ouais. Donc c'est juste énorme, le potentiel. Ça veut dire que si on travaille sur ces espaces-là, sur donc tout ce qui est ordinaire et ce qui est massif, on peut à la fois apporter de réponses très fortes sur la place de la voiture, la place de la mobilité en ville, et donc que l'espace du piéton soit reconsidéré. Mais on peut aussi trouver des solutions massives face au changement climatique. Si on est dans des réponses anecdotiques en termes de volume pour le changement climatique, ça n'apportera pas grand-chose. Donc en fait, il faut se concentrer sur là où on peut avoir des actions simples et super efficaces pour penser à un volume d'action. D'où les rues ordinaires.
Alors juste, si on suit votre raisonnement, ça implique que, je prends l'exemple de Paris, les Parisiens n'aient pas de voiture au final, ou très peu de Parisiens aient une voiture. S'il faut libérer ces rues ordinaires des voitures, il faut que les parce qu'il n'y aura pas assez de parking, de garage, du coup il faut que les Parisiens se séparent de leur voiture et acceptent de se séparer de leur voiture.
Comme le disait Anne...
les Parisiens ont très peu de voitures, ils sont très très peu motorisés. Les voitures qu'on voit à Paris, ce sont souvent les voitures des gens qui habitent à l'extérieur de Paris. Et les voitures qui sont garées à Paris, ce sont les voitures des Parisiens qui ne s'en servent pas. Parce qu'ils se servent leur voiture une fois ou deux par semaine, et le reste du temps, ils prennent les transports. Parce que Paris est une ville qui a une offre de transport collectif remarquable.
Ouais. C'est ce qu'on appelle les voitures ventouses.
Voilà.
Après, il y a aussi beaucoup de Parisiens qui en ont besoin pour quand ils travaillent à l'extérieur de Paris. Enfin, moi personnellement, j'en connais pas mal, et c'est vrai que ils ont pas le choix, il faut une voiture. Il y a ça aussi en fait.
Ouais, bien sûr. Mais l'idée n'est pas de.
Et puis je parle aussi des enfants, ceux qui ont des enfants. C'est aussi compliqué de ne pas avoir de voiture. Enfin, votre avis.
On peut en louer aussi.
C'est vrai, on peut en louer.
Mais je pense qu'il faut, il faut pas écarter la voiture des villes complètement.
Oui.
On n'est pas là pour piétonniser tous les centres-villes, loin de là. C'est juste, comme le disait Anne au début, parfois en fait on oublie qu'on a une voiture qui nous attend dans la rue quasiment tout le temps, en fait. C'est incroyable cette histoire. Donc c'est vraiment c'est sensibiliser et se dire que une personne âgée, quelqu'un qui se casse la jambe, des parents d'une famille qui ont des enfants, on voit bien toutes les contraintes au quotidien. Il faut surtout pas écarter ça parce que la voiture est un facilitateur et donc c'est super important. En revanche, il y a véritablement une question sur ces voitures qui nous attendent et qui servent pas à grand chose, parce que c'est là que finalement se situe le plein potentiel de transformation d'espace public. Donc c'est vraiment le cœur du sujet.
Alors justement, c'était la question d'après. Hein. À qui s'adresse du coup la rue de demain ? Parce que je le disais, il y a des personnes, bah, par exemple aussi des personnes âgées. On peut avoir besoin d'une voiture. Personnes âgées, personnes très jeunes, voilà, les bébés, c'est difficile de prendre le métro avec un tout petit bébé. Une personne âgée qui est un peu malade, c'est pareil. À qui s'adresse la rue de demain et comment faire pour qu'elle n'oublie personne, pour que personne soit laissé pour compte, Anne ?
Alors, bon, d'abord, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de handicap, il y a plusieurs catégories de personnes dites à mobilité réduite ou dites fragiles. Pour la plupart, la plus grande partie, des personnes qui se déplacent avec un peu de difficulté. Par exemple, même celles qui ont besoin d'un déambulateur. Pour cela, ce qui vient d'être dit tout à l'heure est fondamental. Il faut avoir des sols qui soient de bonne qualité, confortables, sûrs, perméables aussi pour des raisons de climat. Donc la qualité des sols, et là il y a sans doute une grande marge d'inventivité, de réflexion et même d'innovation, parce que la qualité des sols c'est fondamental, c'est la première chose. Mais à part ça, il y a des gens qui ont besoin de se déplacer avec des outils qui sont de type fauteuil roulant électrique ou je sais pas quoi. Et puis il y a sans doute des offres qui vont arriver petit à petit pour ces personnes-là. Donc elles ont aussi besoin de sol de qualité, mais peut-être qu'il y a des façons de gérer la circulation. Peut-être que la grande plateforme pour tout le monde, c'est peut-être pas ça la solution pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Et peut-être qu'elles ont besoin d'avoir un circuit à elles ou quelque chose comme ça. Enfin là il y a toute une plage de réflexion à avoir par la suite, parce que à chaque fragilité ou à chaque handicap correspond sans doute une réponse.
Bien sûr, il va falloir compenser. Voilà.
Ouais. Alors, on a déjà quelques idées, puisque, par exemple, on sait le problème du trottoir pour les aveugles, on sait qu'ils ont besoin. On sait, par exemple, le trottoir, c'est justement ce que les fauteuils roulants n'aiment pas. Donc là, on a un gros problème avec cette contradiction. Bon, il y a des tas de choses qui sont encore à régler, et à mon avis, on va y arriver petit à petit. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que ce soit non seulement confortable, mais aussi agréable, pour que ces personnes-là ne soient pas dissuadées, notamment les personnes âgées. Lorsqu'elles ne peuvent pas avoir un confort de leur déplacement, elles ne sortent plus de chez elles, et c'est dramatique pour leur santé, oui, et pour leur sociabilité.
Bien sûr.
Donc, par exemple, elles demandent d'avoir des bancs. Le banc, c'est un outil absolument extraordinaire pour que les gens puissent sortir de chez eux.
Bien sûr.
Donc, il faut absolument pas oublier tout ce qu'on appelle les services à la marche, bancs, fontaines, toilettes, etc.
Oublier les personnes âgées, oui.
Voilà.
Tout à fait. Mireille, qui doit financer cette transformation urbaine ? Parce que ça a un coût, tout ça. Qui doit financer, selon vous ?
Alors, sans aucun doute, la commande publique est le levier de la transformation, puisqu'il s'agit de voies publiques, avant tout, à transformer. Le modèle des réinventés est certainement un mode opératoire intéressant qui pourrait faire émerger des solutions un peu inattendues qui pourront servir d'exemple à répliquer, mais comme il n'y a pas de charge foncière à vendre, il s'agirait plutôt des réinventés de type réinventer nos places à Paris, où il y a eu qu'on appelle un projet sur les 7 grandes places Paris, hein, sur les espaces publics, voilà, et non pas dans les modes où on pourrait imaginer réinventer Paris ou inventons la métropole du Grand Paris avec des fonciers ou des immeubles à vendre. Donc vraiment là, c'est plutôt on va dire la puissance publique qui peut être alors à l'œuvre dans ces aménagements.
Et ça, ce serait vraiment le levier le plus fort, le plus puissant. Oui. Ça, c'est le premier. Et jusqu'à quel point les acteurs privés peuvent-ils être concernés, peuvent-ils être mobilisés ?
Alors, ce que je disais en fait, hein, c'est cette commande publique, elle est avant tout des villes et puis voire des intercommunalités. Elle peut aussi émaner du niveau national avec des appels à projets, par exemple. Par contre, les acteurs privés peuvent être mobilisés au titre des particuliers, des commerçants, des utilisateurs des rez-de-chaussée, par exemple, des immeubles qui veulent être associés au moment de la concertation, dans la conception, voire même dans la réalisation des aménagements des rues.
Mais du coup, alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer qu'ils aient un cahier des charges à respecter s'ils sont nombreux, de types différents?
Oui, alors, par contre, oui, effectivement, les interventions seront conduites avec des cahiers des charges très précis, et on peut imaginer des accords avec avec les copropriétés ou avec les propriétaires en rez-de-chaussée pour que les interventions qu'ils seront amenés à faire sur le bâti se fassent dans le respect des éléments décidés pour la rue commune ou en faveur en fait de la rue commune.
Il faut que ce soit quand même bien encadré, ouais, et que ce soit que tout le monde fasse les choses correctement, j'imagine.
Tout à fait.
Étienne, le fait d'embarquer comme ça les habitants, les usagers, les commerçants, le fait de lancer des concertations avec eux, est-ce que c'est un gage de succès et surtout une garantie que les projets de transformation urbaine vont bien fonctionner et seront bien adaptés à ces personnes, à leurs besoins? Est-ce qu'ils seront justement satisfaits? Est-ce que c'est une garantie de leur satisfaction?
C'est une dynamique, on va dire, qui permet de converger vers un résultat acceptable et accepté. Selon nous, c'est un bon point de départ, le fait d'embarquer un maximum d'acteurs. Comme disait Mireille à l'instant, dans les acteurs privés, il y a effectivement ceux qui réalisent des infrastructures. Là, je pense bien sûr au groupe Vinci que je représente. Et c'est intéressant parce que on peut aussi influer ou donner des orientations sur ces cahiers des charges de conception. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. On a, nous, des innovations en interne. Après, c'est pas non plus des secrets. Hein. Aujourd'hui, je dirais que toutes les technologies, on les maîtrise. Il faut juste que les acteurs publics en prennent connaissance et intègrent ça dans leur démarche.
Il y a un décalage entre vous et les acteurs publics?
Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a toujours en fait un écart dans le temps entre le temps de l'innovation et le déploiement opérationnel.
Et en fait, il y a un écart de combien de temps?
Ce sont en fait plusieurs années, mais si vous voulez, le temps que tout ça soit validé, testé et intégré en fait dans les marchés publics, parfois c'est un peu dommage parce que on sait qu'on pourrait faire mieux à instant T, mais c'est juste que ça fait pas partie de la commande. Donc il y a cette ambition là en fait accélérée, et notamment quand on parle de changement climatique, on se dit que la voirie qui peut en fait être en travaux dès à présent, il faut le faire de la meilleure des manières. Voilà. Donc nous c'est un peu pour accélérer tout ça, et c'est pour ça que dans cette dynamique de partage et de concertation, j'en ai pas parlé en introduction et c'est presque un oubli de ma part, mais en fait avec l'ADEME, ce qu'on a porté, c'est une démarche de commun. Développer un commun, c'est pas développer un projet. C'est vraiment construire une communauté, partager des expériences et faire en sorte que dans le processus qu'on suit, tout le monde peut influer et injecter de nouvelles données pour enrichir la démarche. Et je pense que c'est ça aussi la réussite des projets d'espace public et donc d'espace commun. C'est faire en sorte que tout le monde puisse apporter le petit ingrédient de la réussite. Et infléchir à tous les niveaux, que ce soit quand on est citoyen usager, mais aussi technicien expert des infrastructures ou acteur public ou acteur local du monde associatif, commerçant.
Tout le monde a son mot à dire en fait, afin de ne pas subir au final, afin qu'ils ne subissent pas ce projet.
C'est ça, et notamment parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça met du temps finalement transformer l'espace public. Et on refait pas l'espace public tous les 2-3 ans. Donc il faut se poser des questions les réponses qu'on va apporter, elles vont être là pendant très longtemps. Donc c'est super important, je pense, aujourd'hui.
Que ça plaise.
Déjà que ça plaise, et puis que ça réponde à des attentes. Donc là, ça rejoint la question de l'acceptabilité d'un point de vue de l'usager. Et quand on questionne en fait des points qui sont un peu crispants, hein, comme la place de la voiture, Mais il y en a d'autres, finalement. Quand on a lancé cette consultation citoyenne donc en France, on a vu des résultats émerger, des controverses extrêmement intéressantes. Mmh. Par exemple, les terrasses qu'on a tous vues en bas de chez nous arriver juste après le Covid, ces terrasses éphémères, pour occuper les places de parking, tout le monde trouve ça formidable. Personne ne veut ça en bas de chez soi, parce que c'est une nuisance. Bah, la voiture, c'est la même chose, en fait. Tout le monde en a ras-le-bol, mais personne ne veut se séparer de sa propre voiture. Mmh. Donc vous voyez qu'il y a des sujets qui sont quand même crispants et qui conditionnent finalement l'acceptation du projet. Donc il faut se parler.
Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire est-ce qu'on doit se dire que finalement on sera obligé d'en faire malgré tout et voilà, on n'a pas le choix en fait. On n'a plus le choix, l'urgence climatique est là voilà, tout le monde doit mettre un peu sa main à l'ouvrage. Oui. Je vous vois dire oui. C'est ça au final, hein, je crois.
Oui. Et c'est pour ça que la concertation est absolument indispensable, parce que ça permet d'expliquer aux gens le pourquoi. Parce que sinon, ils le reçoivent comme un diktat et évidemment, ils se rebellent. Quand on travaille avec les gens, qu'on peut leur expliquer le pourquoi des choses, d'abord, ils apportent des éléments à la qualité du projet, parce qu'ils connaissent mieux leur environnement que le technicien qui débarque.
Bien sûr.
Et ensuite, c'est un gage d'acceptabilité pour la suite, parce qu'on a le temps d'en parler et de leur montrer que ce qui va être un petit peu contraignant, de toute façon, ça va leur apporter du plus de façon formidable. Et ensuite, ils ne vont plus contester, parce qu'ils auront participé au processus, donc ils vont s'approprier beaucoup plus facilement le nouvel aménagement, au lieu de immédiatement, parce que n'importe qui, tout le monde a généralement la réaction de dire c'est nouveau donc c'est pas bien.
Bien sûr. Ou quand c'est une obligation, je ne le ferai pas.
Voilà. Hein. Exactement.
D'où encore une fois l'importance de la communication.
Complètement.
Et l'éducation,
c'est...
vraiment voilà. La façon dont on amène la chose.
Et ça, c'est notre boulot d'association. Donc voilà. Et nous, on a une trentaine de correspondants locaux dans toute la France et leur boulot, c'est ça, c'est de travailler à l'acceptation des bonnes solutions.
Étienne,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ville, on est dans un espace qui est contraint. C'est-à-dire que la place est limitée, et donc il faut faire avec la place qu'on a. Et donc, le projet doit expliquer ce qu'on va perdre, mais aussi ce qu'on va gagner.
Voilà.
Et c'est ça qui est extrêmement important. Et parfois, lorsqu'on se passe en fait, de ce temps d'explication, les contreparties de ce qu'on va enlever en fait, ne suffisent pas. Un autre exemple, dans la consultation citoyenne, et ça c'est une controverse qui est très intéressante, en tant qu'expert, donc le groupement de la rue commune, on était persuadé que si on remplaçait les voitures par des arbres, c'était complètement acceptable. Vous enlevez une voiture, vous mettez deux arbres, tout le monde est content. Mais pas du tout. Finalement, ça ne marche pas. La contrepartie n'est pas suffisante. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans l'explication et dans les réponses. Et comme le disait Anne à l'instant, finalement, on ne peut pas se mettre à la place de l'usager. Et on peut pas imaginer des solutions qui vont plaire à tout le monde sans se passer de ces temps d'échange. C'est vraiment l'utilisateur qui a les réponses.
Et alors justement, Mireille, est-ce que c'est plus simple de transformer, de faire accepter la transformation d'une petite ville ou d'une ville de taille moyenne plutôt qu'une grande ville comme Paris, Marseille ou Lyon? Est-ce que c'est plus facilement faisable?
Alors, Les rues ordinaires ont partout des caractéristiques semblables. Ce qui va différencier en fait les métropoles ou les grandes villes des villes moyennes ou plus petites, c'est d'une part la capacité à faire, donc par l'ingénierie dont elle dispose, et d'autre part la facilité d'identifier les rues dont le passage en rue commune sera facilement absorbé en termes de report trafic ou voire de stationnement. Donc ça c'est deux points essentiels. C'est a priori des métropoles et les très grandes villes qui auront plus de facilité pour commencer. C'est la raison pour laquelle en fait la démarche va s'adresser plutôt en priorité à elles.
D'accord.
Avec l'évolution en fait des usages et de la mobilité, il est possible en fait que la réduction de la voiture, comme on l'a dit, soit facilement acceptable. Et ça, ce sera selon les politiques plutôt propres à chacune des villes.
Mmh. Mais là, pour rebondir à ce que vous disiez, Anne, je pense qu'il y a donc une éducation à faire, mais pas que sur le plan climatique, aussi sur le plan santé, montrer l'impact en fait des particules, des microparticules sur la santé, voir qu'en supprimant tel nombre de voitures, eh bien, on gagne en espérance de vie. Voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus également. Hein.
Tout à fait, mais je pense qu'avec l'été qu'on a eu, on a quand même compris que l'ombre, c'était extrêmement important et que, par exemple, des espaces qui ont été... On reprend l'exemple de Paris, la place de la Nation est devenue un immense jardin. Mmh. Bon, ça a été un travail qui a été fait il y a 2 ou 3 ans. Bon, bah, là, ce sont des choses qui, sur le au départ, étaient incroyables et inimaginables. Et puis, avec la concertation, ça s'est fait, et ça s'est fait, et en fait, ça anticiper sur les changements climatiques et tout le monde est content. Tout le monde est content d'avoir des espaces publics plantés. Mais ça, c'est un long travail. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Donc, effectivement, il faut expliquer aux gens que quand on a des étés comme ceux qu'on a eu, eh bien, le fait d'avoir de l'ombre sous des arbres, c'est utile. Et il y a d'autres façons d'avoir de l'ombrage. Il y a des systèmes d'ombrières, il y a des tas de choses comme ça. Et je pense que là-dessus, il y a un gros effort à faire.
Mmh. Bon, après, c'est vrai que l'été qu'on a eu a ouvert les yeux au dernier un peu climato-sceptique. Est-ce que la marche, le fait de marcher, est actuellement sous-estimé par les collectivités locales et les pouvoirs publics par rapport au vélo ?
Complètement. Donc il y a un vrai problème. La France avait un retard énorme en matière de vélo, de politique cyclable, donc elle est en train de le rattraper.
Oui,
très bien.
Il y a un beau travail qui est fait là-dessus.
Voilà, on est très contents, mais ceci dit, le vélo, tout le monde ne se mettra pas au vélo, notamment en fonction des tranches d'âge et d'un certain nombre de problématiques personnelles. Donc le vélo, c'est très bien pour un certain nombre de gens, mais la marche, c'est pour tout le monde. La quasi-totalité de la population marche, sauf quelques personnes très handicapées. Mais en gros, c'est 99%. Donc là-dessus, il n'y a pas d'effort qui a été fait de façon suffisante, et c'est vraiment dommage. Alors évidemment, ça s'explique par le fait que donner des bonnes conditions au vélo, c'est organiser des couloirs dans lesquels on les concentre, et c'est relativement simple. Par contre, le marcheur, il se balade partout dans la ville. Mmh. Donc ça demande une mise à niveau de l'ensemble de l'espace public, et c'est beaucoup plus exigeant que de fabriquer une piste cyclable. Mais ceci dit, il va falloir y arriver, parce que si on ne favorise pas la marche, il y a des tas de gens qui continueront à ne pas avoir d'activité physique et qui continueront à polluer, et voilà. Donc la marche n'est pas assez bien prise en compte en France. Récemment, on a eu un nouveau plan qui est arrivé, et c'est encore un plan vélo. Il y a quelques jours, il a été annoncé par le Premier ministre. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait un plan marche et vélo, parce que ça devient vraiment indispensable. Dans tous les pays européens, il y a un plan marche et un plan vélo. Nous, on a un plan vélo et on n'a pas de plan marche. Le mieux aurait été d'avoir un plan marche et vélo.
Alors, ça va peut-être vous plaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles applications qui se font, mais il y a une application qui récompense les marcheurs en leur donnant de l'argent. Je suppose que vous connaissez, hein, ça cartonne auprès des jeunes, des moins jeunes, un peu auprès de tout le monde. Et c'est vrai que c'est un grand service aussi à rendre à nos pouvoirs publics et puis à nos citoyens également.
Oui, d'une façon générale, les applications numériques sont très utiles pour les marcheurs. Par exemple, avoir c'est leur smartphone. Des cartes à bonne échelle, parce que ce qu'on a en général, c'est le GPS, c'est pour les voitures. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui pourraient évoluer. Le MAS aussi, c'est très important. Il y a des tas d'applications qui vont peut-être améliorer les choses. Et puis il y a aussi tout bêtement la signalétique, hein, une signalétique piétonne bien faite.
Bien sûr.
C'est déjà très important. Voilà, non, mais je pense que c'est très important. Les pouvoirs publics n'en prennent pas la mesure, et que il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus, et on compte aussi sur les entreprises de bâtiments et de travaux publics pour nous aider à ça, parce qu'elles ont tout à fait intérêt à cette recomposition de l'espace public en faveur de la marche autant que du vélo.
Alors Étienne, je vous vois aussi acquiescer. À l'échelle des quartiers ou même des rues, hein, est-ce qu'on peut imaginer, concevoir qu'il y ait des ambassadeurs citoyens en charge du bien vivre ? Donc Mireille en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui est dans vos projets ?
Je pense qu'on peut même le souhaiter, plus que l'imaginer. ça fait partie du projet parce que en ayant une démarche qui vise à engager localement, des citoyens, on se dit qu'il y a forcément des personnes qui vont prendre le lead, comme on dit.
D'autres seront plus impliqués que.
Ouais, voilà, tout simplement.
Et que les autres.
Et ils trouveront en fait aussi peut-être un peu plus de sens que le simple projet d'infrastructure. Je pense que pour un élu, c'est aussi construire un projet de société localement, faire vivre un quartier, faire vivre une rue, qu'on arrête de vivre incognito dans nos villes. Enfin, je sais pas pour vous, moi, je connais pas forcément les voisins de l'immeuble d'à côté. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. Donc si on arrive à avoir quelques acteurs dynamiques, soit parce qu'ils ont du temps à la retraite, soit parce qu'ils sont jeunes et ont envie de s'engager dans une vie de proximité. Et donc je pense bien sûr aux services civiques qui pourraient être une solution. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui pourraient trouver du sens et s'engager à moindre coût pour les acteurs publics. Donc il y a des solutions, c'est tout à fait possible. Si on adresse ce message aux citoyens, c'est bien pour qu'ils soient acteurs dans la conception de l'espace, mais aussi dans la vie de cet espace ultérieurement. Parce que c'est pas un projet, ça ne vit pas tout seul. Il faut toujours qu'il y ait des acteurs. Anne, qui est présidente d'une association, le sait, pour que tout ça fonctionne, il faut être engagé. Et donc je pense qu'il faut des personnes engagées à une échelle ultra-locale.
Anne en parlait tout à l'heure donc de l'ombre, de la végétalisation des espaces. Est-ce que c'est compatible avec une ville plus dense ?
Alors là, il y a un vrai problème, parce que les villes actuellement ont des sous-sols qui sont truffés de réseaux, et pour retrouver du bon sol dans lequel on peut planter, c'est pas évident du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'on a toujours dit que la ville écologique, c'était la ville dense, parce que les distances entre le domicile, les commerces et les services sont courtes. Donc ces distances courtes, elles sont bénéfiques dans la mesure où elles permettent de marcher, de plus marcher et de plus prendre son vélo. Donc ça c'est très très bien. Mais par contre, les villes très denses, elles n'ont pas de place pour le végétal. Or le végétal actuellement, c'est à peu près la seule chose qu'on a comme outil pour faire baisser la température des villes. Donc là, il y a une contradiction qui va être à gérer. Et je pense que dans le cadre de la rue commune, c'est un problème qu'il va falloir bien travailler, parce qu'on a besoin de végétal et on ne sait pas où le planter.
Et ça va avec ce qu'a annoncé le ministre aussi, Olivier Klein, le ministre de la Ville, notre ministre de la Ville et du Logement. Il veut verdir les projets urbains avec le texte quartier résilient. C'est ce qu'il a annoncé. Il faut qu'il y ait du vert dans tous les projets en cours d'urbanisation. Vous vouliez rajouter quelque chose, Étienne ?
Ce qu'on ne voit pas lorsqu'on est piéton, c'est que sous nos pieds, c'est un vrai bazar. Franchement,
on l'imagine, mais...
Non, mais vous avez bien vu, quand il y a des travaux dans l'espace public, on penche la tête, on regarde dans la tranchée, et là on se dit, mais c'est quoi tout ça ? Il y a vraiment ça sous nos pieds. C'est ça partout.
Et c'est vrai que la végétalisation, ça pousse pas sur ça.
Non, et puis en plus, les racines ou autres, on sait bien qu'il peut y avoir des problématiques,
bien
soit
sûr.
Par rapport au réseau, ou même dès lors qu'il y a le métro ou autre, enfin il y a des galeries, tout ça, on ne peut pas. Donc il y a une vraie technique... et là, il y a vraiment de l'innovation, je pense. Comment on va réintégrer le végétal, la biodiversité dans l'espace public, alors qu'on l'a conçu essentiellement pour être ultra robuste et supporter le passage de véhicules lourds. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire finalement, mis à part pour les pompiers ou les camions poubelles dans les villes.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours le problème des camions poubelles et des camions de pompiers.
Voilà, exactement. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe, et on se rend compte que il faut qu'il y ait des acteurs du privé qui s'engagent à faire de la recherche et de l'innovation sur ces sujets-là pour apporter des réponses presque clé en main finalement à des acteurs publics et passer au déploiement.
C'est vrai qu'il faut que tout le monde s'y mette au final.
Voilà, il faut que tous les acteurs s'engagent et se penchent sur un sujet qui, au final, qu'on soit professionnel ou non, nous concerne tous.
Tout à fait. C'est le mot de la fin. Alors, juste pour terminer, un petit mot sur l'événement qui aura lieu donc le 21 octobre prochain. Vous y serez tous les trois ?
Oui.
Sans doute, oui.
Un petit mot peut-être, Étienne, sur ce projet ?
Oui, alors c'est...
Sur cet événement, pardon.
Oui, c'est un temps fort dans le projet parce qu'on va dévoiler les résultats de la consultation citoyenne. Donc là, j'ai déjà dévoilé quelques contenus, mais il en reste beaucoup à dire. Et surtout, on va expliquer comment ça nous a guidés et commence à orienter le travail d'experts dans l'élaboration du guide de la rue commune. C'est extrêmement important, c'est une critique un peu facile et immédiate lorsqu'on fait une consultation. À chaque fois on dit, mais finalement on n'a pas tenu compte de nos réponses ou de nos souhaits. Donc là en fait on va faire cette démonstration méthodologique qu'on a intégré tout ça dans notre travail. Et puis on va aussi donner la parole à de premiers acteurs publics qui ont manifesté un intérêt. Donc des acteurs des métropoles, de grandes villes, qui nous ont dit, on a en fait ce sujet dans notre feuille de route, mais on ne sait pas comment la traiter. Voyons tous ensemble avec votre communauté. Donc c'est pas seulement le groupement de la rue commune, c'est vraiment toute la communauté qui doit s'engager à passer à l'action. Donc c'est un temps fort, c'est le 21 octobre.
C'est en ligne, hein, c'est ça.
C'est en ligne.
Tout le monde peut y accéder.
Oui, tout à fait. Inscription sur Eventbrite, il n'y a pas de limite, pas de jauge, donc tout le monde peut être là et écouter, découvrir et surtout réagir, parce qu'on est vraiment dans une démarche de communauté, donc ce qui nous intéresse c'est avoir des réactions, recadrer en permanence notre travail, c'est vraiment notre méthodologie.
Donc eventbrite.fr, rendez-vous donc le vendredi 21 octobre à 9h du matin, c'est bien ça?
Voilà, exactement. Et donc recherchez tout simplement rue commune et vous tomberez sur l'événement en question.
Ouais, le site est assez simple, hein, c'est facile d'accès.
Et vous pouvez aussi aller sur le site www.ruecommune.com si vous voulez vraiment découvrir tout ce qui a été fait là pendant un an. On est sur une démarche open source, donc open data, on partage tout ce qu'on fait en temps réel. Ce n'est pas parfait, mais
c'est ça qui est
très
intéressant.
Tout à fait dans la démarche, exactement.
Merci Étienne Bourdet, merci Anne Faure, merci Mireille Masson pour cette table ronde qui se termine. Et puis donc, rendez-vous le 21 octobre prochain.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.